Je suis comme vous. J'ai toujours détesté que la reproduction d'une lettre dépassant les 5 lignes interrompe un récit. Fictive ou authentique, la lettre m'indispose vite. Et quand je ne la saute pas carrément, je n'ai guère la patience que de la survoler. La mienne, tout authentique et étonnante qu'elle soit, s'étire sur 4 pages, ce qui m'oblige à la résumer aussi succinctement qu'il est possible, j'en prends l'engagement. Elle émane d'une certaine Noriko, tokyoïte d'une grosse 50aine d'années, qui se prétend ma sœur, ma demi-sœur, la fille d'une femme qui aurait été l'amie de cœur et l'amante de mon père quand celui-ci, jeune engagé dans l'armée française, engagé dans la guerre contre une Indochine engagée dans la conquête de son indépendance, tiraillait au jugé dans les bambouseraies, sous dard colonial, qui, lorsqu'il prenait du repos, se serait donc fendu dans le sexe de la dame du sperme dont j'ai hérité de plus de défauts que de vertus. Cette dame, aujourd'hui très âgée, que ma correspondante affirme mourante, nostalgique de ses brèves amours avec mon géniteur et curieuse de moi, aurait été une de ces malheureuses coréennes dont, avant et durant la Seconde Guerre mondiale, l'impériale armée japonaise avait fait des esclaves sexuels, de ces femmes de réconfort dont les gouvernements nippons successifs ont nié l'existence, avant de récemment se résoudre à ne plus opposer aux doléances des survivantes un mépris absolu, mais un désintérêt poli. Oubliée au Tonkin durant la débandade japonaise, la très jeune femme d'alors ne l'aurait quittée, enceinte, qu'après la débandade française, non pour la Corée, où ses proches, s'il lui en restait, n'auraient pas manqué de la repousser, mais le Japon, qui, ne se souvenant déjà plus d'avoir été infâme, omis de rejeter à la mer celle qui, sous la contrainte, l'avait réconfortée. Noriko, qui s'excuse 1000 fois de sa démarche, dit avoir appris mon existence et s'en être réjoui il y a longtemps de cela, sans jamais s'être senti le droit de m'imposer la révélation de la sienne, selon elle d'un très médiocre intérêt pour moi, m'assurant, dans un français choisi, qu'elle n'a le front de ne se faire importune que dans l'espoir de soulager l'agonie de sa merveilleuse maman et de me voir répondre favorablement à l'invitation qu'elle me fait de l'honorer d'une visite prochaine, qu'elle refuserait cependant que j'accepte si je ne lui accordais l'éminent privilège d'en supporter tous les frais. J'ai agi comme vous à ma place, j'ai ouvert le ventre de mon MacBook et lu dans ses entrailles ce que l'omniscient Google dit de l'Indochine française et des « femmes de réconfort », pas moins de 200 000 jeunes filles radiées entre 1938 et 1945 dans tous les territoires conquis par les stratèges du Mikado, de la Chine aux Philippines, de la Corée à la Birmanie, livrées en pâture à la soldatesque à raison de 70 passes journalières et battues, torturées, mutilées à l'occasion, éliminées après usage. Ensuite, j'ai fait des calculs et découvert, stupéfait, que les dates collaient, que j'étais assez vieux pour avoir eu un père dont les basses œuvres au tout début des années 50 pouvaient, à travers le drame d'une jeune Coréenne devenue chère à canonnier, avoir lien avec l'expansionnisme ravageur de l'Hirohito de la fin des années 30. J'étais dans l'impossibilité d'exclure que le Tokyo de Noriko et mon Berlin d'expatrié aient en commun quelques gènes déconcertants, ceux d'un crétin mal aspiré d'être allé se battre et copuler au Tonkin, mal aspiré d'avoir, de retour au pays, engrossé ma mère, et dont je n'aurais jamais imaginé que jaillisse un jour une source d'étonnement de sa piètre histoire, cette fichue lettre ne me faisant pas l'effet d'un canular. Mais qu'est-ce que cela devait m'inspirer, sinon du recul, comme tout ce qui, de près ou de loin, touchait à la conduite de mon père? Je me suis interdit de répondre. Et j'ai répondu. Et Noriko m'a répondu, et je lui ai répondu, et Noriko m'a convaincu de tenter l'aventure, à moins que seule une curiosité malsaine soit cause de mon assentiment. J'ai relu bien des fois cette fichue lettre en maudissant ma complaisance, et encore cette nuit-là, sans réussir à me convaincre de défaire mon sac et de jeter mon passeport au fond d'un tiroir. Je suis allé à la fenêtre et j'ai contemplé le panorama dont je m'apprêtais à me priver 2 semaines durant. Berlin dormait de tout son long, forme vague à l'aspect écrasé, dont je ne distinguais plus le bonnet de pollution rosâtre qu'elle coiffe au crépuscule, ni d'ailleurs, à cause de la brume, le Fernsehturm Turm piqué sur l'Alexanderplatz comme une épingle à tête rouge sur un plan de ville. Mais j'avais là, quasi à portée de main, creuse et gracieuse, ma chair vieille, functourme, d'acier, nimbée de lumière verte, la flèche de néon vermillon d'Innova, et chose extraordinaire, chose somptueuse, chose rousse, rousse à faire peur aux voyageurs en partance qui n'y verraient que feu mourant ou sang caillé, le disque monstrueux d'une lune pleine de bosses et de fosses, dont la circonférence tremblée semblait attester une origine humaine, tel un orbe d'ocre brun sur une paroi rocheuse aggravant l'émoi de qui l'admirait. Et j'allais être assez stupide pour manquer la nuit prochaine. C'était à se taper la tête contre les murs. Celui de droite, derrière lequel moisit M. Cordès, qui n'a pas dû fourrer une fois depuis la réunification. Celui de gauche, derrière lequel M. Bressonic communique 20 heures sur 24 avec tous ses amis de Facebook au nom de 1715, quand cet avorton trentenaire au sein mou et aux éternels t-shirts blancs tendus comme des bandages hernières m'a attiré chez lui, fièrement présenté dans le charabia qui est notre espéranto, les plus chers de ses lointains amis, là, déjà au nombre de 1717, quand je me suis sauvé au prétexte de lentilles sur le feu, l'insen en fuego. Mon étage est celui des studios, des célibataires endurcis et impécunieux, des babots, des ronchons et des valétudinaires. Aux étages inférieurs, les veuves branlantes ont leur gynécée, enfilade de deux pièces gardées par des chiens-chiens aux museaux blanchis. Aux étages supérieurs, en revanche, l'agitation est permanente. La colonisation des belles surfaces avec vue à tomber bat son plein, et ce n'est que rénovation frénétique, livraison à tout va, apparition sur le parking d'ostentatoires automobiles. Chien-chien compris, nous sommes là-dedans près de 2000. Et j'aime tout le monde, à ma façon. Misanthrope, mais tempéré par l'amusement que me cause un tel grouillement hétérogène. Si je ne fréquente personne, et n'ai guère pénétré que chez M. Bressonic, ou chez M. Cordès, le jour où les ambulanciers ont forcé sa serrure en se trompant de porte. Je les avais appelés, la langue épaisse et le vocabulaire plus rare que jamais, appelés à mon secours en me croyant victime d'une attaque cérébrale, qui s'avéra n'être qu'une bouffée d'aphasie consécutive à un excès d'essolement, dont la séquelle est que M. Cordès ne m'adresse plus la parole. Je ne fuis pas les occasions de causer un peu. Ce fut le seul conseil du médecin qui m'examina. Et il n'en est de plus belle que l'apéritif annuel qui réunit dans le hall tous ceux que notre promiscuité n'aigrit pas, à peine une centaine, il est vrai. Aussi salubre qu'elle soit, la pratique s'en révèle délicate du fait de la complexité des convenances en milieu cosmopolite à dominante germanique, singulièrement pour un français à l'allemand lacunaire et à l'anglais indigent, et dans un Berlin où l'ancienne partition perdure dans les comportements. Si un ex-berlinois de l'Est vous salue en vous tendant spontanément la main, celui qui a toujours été de l'Ouest préfère souvent garder une distance et s'en tenir à une formule de politesse, quoique le serrage de main ne soit pas exclu s'il vous est déjà arrivé de tailler une bavette avec lui. Situation qui, dans mon cas, n'a guère de chance de se présenter qu'avec un francophone. Une interlocutrice de l'Ouest pouvant pousser la cordialité jusqu'à la bise, comme Concha. Hispano-berlinoise, francophonante, aussi ouverte que peu représentative, ou jusqu'à la caresse du bras, comme Birgit Blobel, sexagénaire amoureuse de la Provence où elle passe hiver et printemps. Ou préférer un joyeux « Hallo » à un solennel « Guten Abend » comme Madame Eimers, actrice polyglotte par malchance fâchée avec le français. En bref, ces mondanités ne sont jamais pour moi de tout repos et je m'expose à y commettre l'ineptie. Comme lors du dernier apéritif en date. J'avais blagué avec Manfred, ex-berlinois de l'Est, autrefois marié à une Mexicaine de Paris, marmotté un peu d'anglais avec Mathias Lévy, échangé quelques mots d'italien avec M. Christ de retour de Sicile, et j'étais encore étourdi par cette prouesse quand j'ai vu venir à moi Ulrich Blobel, aussi francophone et francophile que son épouse, et dont j'avais même souvenir que nous nous tutoyons, rien ne s'opposant donc à ce que je lui serre la main. Petite difficulté, Ulrich avait les mains prises par le plateau de saucisses qu'il descendait toute chose de son logis. Croyant le voir libérer une des dites mains pour moi, j'avais tendu la mienne, à l'instant où celle que je pensais m'être destinée retournait finalement à l'abri du plateau comme un crabe sous son rocher. Je songeais à dire quelque chose comme « Je te serre la main malgré tout, cher Ulrich, content de te voir. Mais avant que j'aie ouvert la bouche, Ulrich a poussé sous mon nez son plateau de saucisses, m'imposant de me servir, ce que je fis, disant « Je te sers la saucisse ». Il a fallu 3 grosses secondes pour que l'incongruité folle de ma sortie explose dans mon crâne. J'en suis toujours à espérer que la francophilie d'Ulrich n'en ait pas trop souffert, d'autant qu'il s'est avéré qu'en fait nous nous vouvoyons et que même s'il me sert la saucisse, nous ne sommes pas copains comme cochons. Le remède serait évidemment de maîtriser enfin la langue du pays qui m'accueille en son sein plantureux, mais ma carence en la matière a plaisamment hypertrophié mon sens de l'observation, et je trouve excitant de devoir user d'intuition dans la plupart des circonstances. Certes, le résultat n'est pas toujours fameux, les bévues et les déboires sont légion, mais je ne renoncerai pas pour autant à n'apprendre l'allemand autrement que par imprégnation, aussi laborieuse et aléatoire qu'elle soit. Je tiens à mes brouillards. Ils sont mon luxe, celui de ne pas avoir une conscience trop claire de ce qui m'entoure, de ce qui m'attend. Je demeure étranger en pays familier. Je continue de voir le monde en enfant, en animal de compagnie. De cette façon, puisque la vie ne peut s'empêcher de devenir la vie, j'en prends mon parti, mais petit à petit, et avec un peu de retard sur les événements.